Chapitre 25. Où était-il allé? Avait-il encore des relations qu'il n'avait jamais évoquées et chez qui se réfugier? Et sans sa morphine, qu'allait-il devenir? Saurait-il en trouver? Peut-être s'était-il enfin résolu à rentrer dans sa famille, solution la plus raisonnable. Sauf que Édouard n'avait rien de raisonnable. D'ailleurs, comment était-il avant-guerre? S'interrogeait Albert. Quel genre d'homme était-il? Et pourquoi, lui, Albert, n'avait-il pas posé davantage de questions à M. Péricourt pendant ce fameux repas, parce qu'il avait bien le droit, lui aussi, d'en poser des questions, de s'enquérir de ce qu'avait été son compagnon d'armes avant qu'il le connaisse? Mais, avant tout, où était-il allé? Voilà ce qui, du matin au soir, occupait les pensées d'Albert depuis le départ d'Édouard 4 jours plus tôt. Il remuait des images de leur vie, ressassait comme un vieux. Édouard ne lui manquait pas à proprement parler. Sa disparition avait même provoqué un brusque soulagement, le faisceau d'obligations auquel la présence de son camarade le contraignait s'étant soudain démêlé, il avait respiré, s'était senti libéré. Seulement, il n'était pas tranquille. « Ça n'est quand même pas mon môme, » pensait-il, quoique, si on considérait sa dépendance, son immaturité, ses entêtements, tout poussa à la comparaison. Quelle idée idiote l'avait donc saisie avec cette histoire de monument aux morts? Albert y voyait de la morbidité. Pas encore que l'idée lui soit venue, à la limite, on pouvait le comprendre, il avait des envies de revanche, comme tout le monde, mais qu'il soit resté aussi insensible aux arguments, pourtant rationnels, d'Albert, relevait du mystère. Qu'il ne comprenne pas la différence entre un projet et un rêve. Ce garçon, au fond, n'avait pas les pieds sur terre, quelque chose qu'on devait voir souvent chez les riches, comme si la réalité ne les concernait pas. Il régnait sur Paris un froid humide et pénétrant. Albert avait réclamé que l'on change ses planches de réclame qui gonflaient et devenaient terriblement lourdes en fin de journée, mais pas moyen d'obtenir quoi que ce soit. Près du métro, le matin, on prenait ses panneaux en bois, on en changeait à l'heure du casse-croûte. Les employés, pour la plupart des démobilisés n'ayant pas encore retrouvé un emploi normal, étaient une dizaine sur le même arrondissement, plus un inspecteur, un pervers toujours planqué quelque part, juste au moment où vous vous posiez pour vous masser les épaules, qui surgissait et menaçait de vous foutre à la porte si vous ne repreniez pas immédiatement votre déambulation. C'était un mardi, le jour du boulevard Haussmann entre Lafayette et Saint-Augustin. D'un côté, ravi-bas, pour teindre et raviver les bas, de l'autre, lip-lip-lip-hourra, la montre de la victoire. La pluie, qui s'était arrêtée dans la nuit, se remit à tomber vers 10 heures du matin. Albert venait d'arriver à l'angle de la rue Pasquier. Même une pause pour chercher sa casquette dans sa poche était interdite. Il fallait marcher.
« Ah, c'est ça le boulot, hein, marcher ?» disait l'inspecteur. « Ah, t'as été fond ta boche, non ? Eh ben là, c'est pareil. »
Mais la pluie était drue, froide. Tant pis. Albert jeta un œil à droite, à gauche, puis se recula contre le mur d'un immeuble, plia les genoux, les panneaux se posèrent au sol. Il se baissait et s'apprêtait à passer sous les lanières de cuir lorsque l'édifice s'abattit. Il reçut la façade entière en pleine tête. Le choc fut si violent que sa tête partit en arrière, emmenant le reste du corps. L'arrière de son crâne s'écrasa contre le mur en pierre, les panneaux s'écroulèrent, les courroies se vrillèrent, Albert en fut étranglé. Il se débattit comme un homme qui se noie, le souffle coupé, les panneaux déjà lourds lui étaient tombés dessus en accordéon, impossible de remuer. Quand il essaya de se relever, les lanières se serrèrent autour de son cou. Alors, l'idée surgit, stupéfiante, c'était la même scène que dans son trou d'obus. Empêtré, étouffé, immobilisé, asphyxié, il était dit qu'il mourrait ainsi.
Il fut saisi de panique. Ses gestes se firent désordonnés. Il voulut hurler, n'y parvint pas. Tout allait vite, très vite, beaucoup trop. Il sentit qu'on lui agrippait les chevilles, qu'on le tirait de sous les décombres. Les lanières accrurent leur étreinte autour de son cou. Il tenta de glisser ses doigts dessous pour trouver de l'air. Un coup très violent fut frappé sur l'un des panneaux de bois. Le coup résonna dans son crâne et soudain apparut la lumière. Les lanières se défirent. Albert aspira l'air avec avidité, trop d'air. Il se mit à tousser, faillit vomir. Il chercha à se protéger, mais de quoi ? À se débattre ? On aurait dit un chat aveugle et menacé. Il comprit enfin, en ouvrant les yeux, l'immeuble qui venait de s'écrouler prit une forme humaine, celle d'un visage furieux penché sur lui, les yeux exorbités. Antonopoulos criait « Salaud !» Sa figure mafflue, ses grosses bajoues tombantes étaient enflammées par la fureur. Son regard semblait vouloir transpercer la tête d'Albert de part en part. Le Grec, qui venait de l'assommer, se tortilla, s'élança et s'assit brutalement sur les vestiges des panneaux, son immense cul broyant la planche sous laquelle se trouvait la poitrine d'Albert, qu'il attrapa par les cheveux. Bien calé sur sa proie, il se mit alors à lui marteler la tête à coups de poing. Le premier fit éclater l'arcade sourcilière, le deuxième fendit les lèvres, Albert eut aussitôt le goût du sang dans la bouche, impossible de remuer. Étouffé sous le Grec qui continuait de hurler, de scander chaque mot d'un coup au visage. Un, deux, trois, quatre, Albert en apnée entendait des cris, il tâcha de se détourner, sa tête explosa sous un choc à la tempe, il s'évanouit. Des bruits, des voix, ça s'agitait tout autour. Des passants étaient intervenus, parvenant à repousser le Grec vociférant, à le rouler sur le flanc, il s'y était mis à trois, et enfin à dégager Albert, à l'étendre sur le trottoir. Quelqu'un parla tout de suite d'appeler la police. Le Grec se cabra, il ne voulait pas de la police, ce qu'il voulait, à n'en pas douter, c'était la peau de cet homme inconscient qui gisait dans une mare de sang et qu'il désignait du poing en criant « Salaud !» Il y eut des appels au calme, les femmes reculaient en fixant l'homme en sang, allongé, évanoui. Deux hommes, des héros de trottoir, maintenaient le Grec sur le dos comme une tortue empêchée de se retourner. On criait des instructions, personne ne savait qui faisait quoi, on passait déjà aux commentaires. Quelqu'un dit que c'était une histoire de femme. Vous croyez ? Bah, tenez-le ! Oh, bah, vous êtes bon, vous, tenez-le ! Venez m'aider plutôt ! C'est qu'il était puissant, hein, ce comte grec. Hein. Quand il tentait de se retourner, un vrai cachalot. Il était trop volumineux pour devenir réellement dangereux. Quand même, disait l'un, il faudrait bien que la police arrive. Police ! Non police ! Hurlait le Grec en gesticulant. Le mot « police » décupla sa colère et sa hargne. D'un bras, il envoya sur le dos un des bénévoles. Les femmes, tout ensemble, poussèrent un cri, ravies. Elles firent tout de même un pas en arrière. Insensibles à l'issue de la dispute, des voix plus loin questionnaient. « Un Turc ? Mais non, c'est du Roumain !»« Oh non !» répliquait un homme très informé. « Non, le Roumain, c'est comme le Français. Non, ça c'est du Turc !» « Ah !» exultait le premier. « Du Turc, c'est bien ce que je disais !» Sur quoi, la police arriva enfin. Deux agents, qu'est-ce qui se passe ici ? Question idiote, puisqu'on voyait clairement qu'il y avait un homme qu'on essayait d'empêcher d'en achever un autre, évanoui à 4 mètres de là. « Bien, bien, bien !» dit la police, « on va voir ça. » En fait, on ne vit rien du tout, parce que les événements se précipitèrent. Les passants qui, jusqu'alors, avaient retenu le Grec se relâchèrent en voyant arriver les uniformes. Il ne lui en fallut pas davantage pour rouler sur le ventre, s'agenouiller, se relever. Là, personne n'aurait pu l'arrêter. C'était comme un train prenant de la vitesse. Vous pouviez être broyé, personne ne s'y risqua, surtout pas la police. Le Grec fondit sur Albert, dont l'inconscient dut percevoir le danger. Au moment où Antonopoulos arrivait sur lui, Albert, en fait, ce n'était que son corps, Il avait encore les yeux fermés et dodelinait de la tête comme un somnambule. Albert, donc, roula à son tour sur le ventre, se mit debout lui aussi, commença à courir et s'éloigna en zigzagant sur le trottoir, poursuivi par le Grec. Tout le monde fut déçu. On avait une relance de l'action et voilà que les protagonistes disparaissaient. On était frustré d'une arrestation, d'un interrogatoire, car, enfin, on avait participé, on avait le droit de connaître le fin mot de l'histoire, non ? Seuls les policiers ne furent pas déçus. Ils levèrent un bras désarmé et fataliste, advienne que pourra, espérant que les deux hommes continueraient de courir l'un après l'autre assez longtemps, puisque, juste après la rue Pasquier, ce n'était plus leur secteur. La course-poursuite avorta d'ailleurs assez vite. Albert passa sa manche sur son visage pour y voir plus clair. Il courait comme quelqu'un qui a la mort aux trousses, infiniment plus rapide que le Grec, bien trop lourd. Il y eut bientôt entre deux rues, puis trois, puis quatre. Albert prit à droite, puis à gauche, et, à moins de tourner en rond et de retomber sur Antonopoulos, il en était quitte pour la peur, si on ne comptait ni les deux dents cassées, ni l'arcade ouverte, ni les hématomes, ni la terreur, ni les douleurs aux côtes, etc. Cet homme sanguinolent et titubant n'allait pas tarder à attirer de nouveau la police. Déjà, les passants s'écartaient, l'air inquiet. Albert, qui comprenait qu'il avait réussi à mettre de la distance entre son agresseur et lui, se rendant compte de l'effet déplorable qu'il produisait, s'arrêta à la fontaine de la rue Scribe et se passa de l'eau sur le visage. C'est à ce moment-là que les coups commencèrent à lui faire mal. Surtout l'arcade ouverte. Il n'y avait pas moyen d'arrêter le sang de couler, même avec la manche serrée sur son front, il en avait partout.